Merci de passer la soirée avec nous. D'un appel à l'autre après Vladimir Poutine, Donald Trump s'est donc entretenu aujourd'hui avec Volodymyr Zelensky au téléphone, environ une heure de conversation. On est loin hein, de l'atmosphère dans le bureau ovale il y a trois semaines. Le ton était beaucoup plus conciliant puisque le président américain a évoqué un très bon appel. Son homologue ukrainien parle, lui, d'une discussion franche, très substantielle et positive. Bonsoir Thierry Arnaud, éditorialiste politique internationale pour BFM TV. Qu'est-ce que ça signifie en langage diplomatique ?
Alors d'abord, c'est important de souligner que ça s'est bien passé, contrairement à la fois précédente, vous avez raison, dans le communiqué qu'il publie ce soir, Volodymyr Zelensky commence ce communiqué en disant qu'il a remercié Donald Trump, termine ce communiqué en disant qu'il a remercié Donald Trump, et au milieu exprime sa gratitude pour Donald Trump. Donc il a manifestement retenu la leçon de ce qui s'était mal passé le 28 février dans le bureau ovale. Mais plus sérieusement, c'était fondamental pour lui de pouvoir avoir cette conversation, parce qu'il fallait... Évidemment, l'Ukraine reste partie prenante de ces négociations, c'est le moins, puisque l'on parle de l'Ukraine. Ce n'était pas évident sur la base de ce qui s'était dit hier entre Vladimir Poutine et le président Donald Trump. Donc, il a insisté sur le fait que les deux présidents sont en phase pour avancer vers une solution pacifique pour mettre en place ces négociations à partir de ce week-end en Arabie Saoudite, où on va mener en quelque sorte deux conversations parallèles. D'un côté, les Américains vont parler avec les Russes. De l'autre côté, les Américains vont parler avec les Ukrainiens. Et on va faire en sorte de pouvoir progresser. Pas une seule critique vis-à-vis des États-Unis, évidemment, de la part de l'Ukraine. Pas une seule remarque désobligeante vis-à-vis de la Russie dans ce communiqué. Donc, il fait vraiment tout ce qu'il faut, Volodymyr Zelensky, pour essayer de garder ce processus sur les rails. Et un point intéressant qui n'a pas toujours été relevé dans ce qu'il nous dit également ce soir, c'est qu'il pense qu'avec l'aide de Donald Trump, on peut réussir à faire la paix en Ukraine cette année. Donc ça veut dire que c'est, de son point de vue, une question de mois sans doute plus que de semaines, mais qu'il voit en quelque sorte la lumière au bout de ce long tunnel.
C'est le grand écart entre ce qui s'est passé, Paul Gogo, il y a trois semaines à la Maison-Blanche et cet appel téléphonique. Comment vous expliquez, vous interprétez-vous ce changement de ton ? Est-ce que Donald Trump est en train d'amadouer Volodymyr Zelensky pour lui faire avaler une couleuvre, ou est-ce que le vent est en train de tourner au profit de Kiev ?
Ils ont peut-être... Alors, parce que nous, on fait souvent l'analogie avec les mafias quand on analyse Vladimir Poutine. Donc, on est responsable d'une mafia, on a toujours un côté séduction, il y a toujours un moment où on avance dans la séduction. Et des fois, c'est un peu cette attitude que je vois là. Après, bon, là, Donald Trump, il déplace des poids sur une balance, visiblement. Et pour nous, c'est assez difficile à analyser, dans le sens où on s'était peut-être imaginé pendant plusieurs années que le jour où on allait parler de paix dans ce conflit, on allait parler de questions territoriales. Voilà, en tout cas, les questions territoriales auraient été au centre des choses. Et là, on comprend vraiment que tout repose sur une base presque idéologique, en tout cas une vision du monde commune, et que de ce point de vue-là, de ce prisme-là, en fait, on construit les négociations, la construction des négociations. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des propositions et des choses acceptées qui... a priori, ont peu de sens. Là, on nous explique ce soir que peut-être que les Américains vont prendre le contrôle de Tchernobyl à un moment ou un autre. En tout cas, c'est une proposition.
Ce genre Zaporizhia plutôt, peut-être.
Zaporizhia, parce qu'il est apparemment question de toutes les centrales du pays. Alors, voilà, bon, c'est peu probable que ça arrive, mais en tout cas, on se retrouve avec des propositions qui paraissent assez
Donald Trump a suggéré, effectivement, de prendre le contrôle des centrales électriques ukrainiennes. Et il dit, voilà, ça constituerait une protection, ça serait une garantie de sécurité, puisque les Russes, du coup, n'attaqueraient pas.
Ce qui, par ailleurs, est totalement absurde, parce que si vous avez des Américains dans ces centrales et que les combats reprennent, les Américains, ils vont juste rentrer chez eux, ils vont pas empêcher... Ils auront aucun rôle dans le fait que le cessez-le-feu ne fonctionnera pas. Ce sont pas ni des gens qui vont garder la paix, ni des observateurs, ce sont juste des gens qui seraient alors amenés à venir faire du business accessoirement dans des centrales électriques où tout fonctionne en langue russe ou ukrainienne. Enfin, on comprend mal ce que les Américains peuvent faire là-dedans. Mais c'est presque anecdotique. Ouais. L'idée, c'est vraiment juste qu'on débat de plein de choses, mais que le fond de tout ça, c'est une sorte d'idéologie, vision du monde. Vladimir Poutine a le droit d'agir sur l'Ukraine. Les États-Unis, eux, donnent ce droit-là à Vladimir Poutine. Et donc, les négociations tournent autour de ça. Qu'il parvienne, Donald Trump, à mettre la pression sur Vladimir Poutine. Visiblement,
c'est le point de vue. Quand même, Guillaume, parce qu'il y a le ton qui a changé, mais il y a quand même eu des gestes, en tout cas des promesses. de Donald Trump aujourd'hui, alors que Vladimir Poutine a exigé l'arrêt de l'aide militaire, Donald Trump dit aujourd'hui à Volodymyr Zelensky qu'il va aider l'Ukraine à se procurer des systèmes de défense antiaérienne. Alors avec un bémol quand même, ce qui dit voilà, on verra si les Européens peuvent en procurer davantage. Donc il n'implique pas forcément les États-Unis, mais il dit aussi qu'il n'y aura pas d'arrêt du renseignement américain. C'est quand même des gestes, ça, vis-à-vis de Kiev.
Qui sont assez inquiétants. Bien sûr, on était parti sur une promesse de cessez-le-feu. Quand on a un cessez-le-feu, on n'a pas besoin de renforcer la défense solaire et le renseignement, puisque les combats sont censés s'arrêter. Or, on voit bien qu'entre le deal que Trump pensait avoir passé avec Poutine il y a encore quelques semaines, on se rappelle que cette semaine, il nous disait lundi, il va y avoir une conversation très importante, et on a vraiment tous cru qu'il allait nous annoncer la fin des combats, et puis après de difficiles négociations sur la manière dont ça allait durer dans le temps. Mais là, quand il dit « je suis prêt à aider l'Ukraine pour renforcer sa défense solaire », ça veut dire qu'il accepte, il intègre le fait que l'Ukraine va continuer à se faire bombarder pendant un certain temps. Donc on voit, tu l'as rappelé tout à l'heure, que les négociations en fait s'éloignent en termes de temps. On croyait qu'on jouait en jours, maintenant on n'est plus tout à fait en semaine, on se demande même si c'est pas en mois ou en années. Donc c'est très inquiétant cette situation. Pour moi, il perd un peu le contrôle, Donald Trump, alors que par ailleurs, en Israël, où il avait ramené, avec la plus grande difficulté, la paix sur la bande de Gaza, en tout cas, fait cesser les bombardements, tout ça est reparti exactement comme pendant 15 mois de combat, avec déjà plus de 400 morts, ce qui est inouï. Donc, on a l'impression que la situation lui échappe et que le prix Nobel de la paix, il va être obligé de le partager avec Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou.
Claude Blanche-Maison, quand même, malgré tout, Vladimir Poutine avait posé ses conditions. Là, ce soir, Donald Trump dit d'une certaine façon non aux conditions de Vladimir Poutine en disant non, je ne vais pas arrêter l'aide militaire américaine. Comment il faut l'interpréter? Est-ce un pied de nez à Vladimir Poutine ou il ne faut pas surinterpréter ça et ça présage en rien la suite des négociations?
Je trouve qu'on en revient à des choses plus raisonnables. D'une part, Trump s'est aperçu hier que Poutine était plus coriace qu'il ne l'imaginait et que par conséquent, il ne pouvait pas le manipuler comme il le croyait. Il ne pouvait pas enlever un cessez-le-feu sans aucune condition. Poutine tient à ses conditions et par conséquent, Trump est reparti en effet avec quelque chose qui était déjà préparé d'avance puisque les Ukrainiens en avaient discuté directement avec les Russes au mois de juin de l'année dernière, à savoir faire un cessez-le-feu sectoriel sur les usines d'électricité, les centrales électriques et également côté russe sur les raffineries de pétrole russe et les stockages de d'essence pour l'armée. Il y avait un intérêt commun parce que les Russes en avaient assez de voir les drones ukrainiens détruire leurs réserves de d'essence, détruire un tiers ou un quart des capacités de raffinage russes, car c'est ce qui s'est passé. Donc ils voulaient que ça s'arrête, les Russes. Et du côté ukrainien, on voulait pas avoir froid pendant l'hiver, donc on voulait pas que les centrales soient détruites. Donc on comme toujours dans une négociation, on s'est mis d'accord dans un premier temps sur ce sur quoi c'était le plus facile de se mettre d'accord. On commence toujours comme ça, par la périphérie. Et puis deuxièmement, on a mis en place une structure. Donc on met en place une méthode. Et la méthode et la structure, c'est ce qui va se passer à partir de dimanche en Arabie Saoudite. En effet, une réunion, probablement au niveau des ministres affaires étrangères, probablement il y aura d'autres réunions dans d'autres formats. Et en effet, ça va durer des mois. C'est sûr, ça va durer des mois. Parce que c'est tellement difficile et il y a tellement de problèmes à résoudre que ça va durer très longtemps.
Est-ce que c'est une mauvaise chose que ça dure longtemps? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que ça prenne du temps
négociation
et que ce soit, ne se fasse pas au détriment de Kiev?
La négociation sur la paix en Indochine, au Vietnam, elle a duré 4 ans à Paris. Donc on ne sait pas. J'espère que ça durera beaucoup moins longtemps. Alors, par exemple, le prochain sujet, c'est d'étendre le cessez-le-feu à la mer Noire. Alors là, ça veut dire qu'il va falloir inviter sans doute la Turquie, parce que comment parler de cessez-le-feu en mer Noire sans inviter le gardien des Trois. Bien entendu, il faudra inviter... Et ainsi de suite. Et puis, Zelensky a sensibilisé le président américain à l'affaire des enfants qui ont été enlevés.
Des enfants
25 000 enfants ont été enlevés et sont russifiés dans des familles ou des institutions russes.
Et ça, évidemment, aussi, c'est un gage que donne
scandale humanitaire.
Mais ça, c'est un gage que donne Donald Trump quand il dit on va travailler à faire revenir ses enfants.
Bien sûr, mais peut-être n'était-il pas tout à fait au courant de l'importance de ce problème et qu'en effet, il va mettre la pression, à mon avis, sur Poutine pour que ce problème soit réglé. Et il peut être réglé avec une agence de l'ONU qui est spécialisée là-dedans, qui est l'UNICEF, pour faire revenir les enfants et les réinsérer. Si c'est non, eh bien, la guerre continuera. Elle continuera des mois et des mois. Mais effectivement, je pense que et ça, c'est une bonne chose. Trump a pris conscience du fait que Poutine était extrêmement coriace et qu'il n'abandonnerait pas les conditions qu'il a mises à un cessez-le-feu global comme cela. Et qu'il fallait, en effet, qu'il y ait des négociations qui seront probablement très longues et dans lesquelles d'autres intervenants vont apparaître. Les Européens, par exemple.
Oksana, on se demandait justement hier, après ce coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine, si Donald Trump allait tout céder au président russe. Est-ce que ce soir, et si cet accord allait se faire sur le dos de l'Ukraine, est-ce que ce soir, malgré tout, vous avez quand même une forme de soulagement en vous disant non, il n'accepte pas tout, Donald Trump?
Vous savez, on ne prête aucune attention sérieuse à tout ce qui se passe entre Trump et Poutine aujourd'hui. Peut-être je vais vous choquer, mais tout ça, on prend ça comme un jeu, parce que Trump, il s'est mis dans sa petite tête qu'il est empereur du monde et qu'il va résoudre ce problème comme ça. Mais vous parlez de méthode? Non, mais je pense que c'est le mot dont le sens Trump ne connaît pas. Donc, l'équipe de Trump, ils sont loin de travailler dans la méthode dont vous parlez, cher monsieur l'ambassadeur, avec tout le respect pour les méthodes européennes, mais Trump et son équipe, c'est le chaos. Donc, ils n'ont aucune idée qu'est-ce qui se passe sur le front. Vance, il a dit pendant cette interview, j'ai scrollé les stories. C'est tout ce qu'il connaît sur l'Ukraine. Donc, on a accepté ce jeu-là. Mm-hmm. On va jouer avec eux. Vous voulez jouer au pacificateur, ok. Tandis que l'armée ukrainienne tient, mais c'est l'armée ukrainienne qui assure la sécurité de l'Ukraine aujourd'hui. Mais la vraie diplomatie, elle se passe aujourd'hui en Europe et par l'euro. Et comme les gens sérieux, les Européens ne parlent pas.
Et pour l'instant, ils sont pas autour de la table des Européens.
Non,
mais attendez. On verra s'ils auront leur place à la table des négociations.
Il y a les tables différentes.